Bonsoir. Donc nous avons le plaisir ce soir de recevoir Gaël Josse, qui vient nous parler de son premier roman, Les Heures Silencieuses. Donc déjà c'est un très beau titre. Paru aux éditions Autrement. Et c'est un roman qui a tellement enchanté les lecteurs que nous avons décidé de lui décerner notre prix Lavinal 2011. Alors, en deux mots, juste pour expliquer un petit peu le principe de ce prix, en fait, les libraires, au cours du premier trimestre de l'année, ont sélectionné leurs 6 romans préférés et ensuite ont proposé à un jury de lecteurs, alors composé de journalistes, de bibliothécaires, de clients de la librairie, de voter pour leur livre préféré. Et donc c'est celui de Gaël Josse qui a obtenu l'unanimité. Donc le jury a particulièrement salué la finesse de la composition, le style fluide, élégant, et surtout le très beau portrait de femme qu'elle nous donne. Donc, à l'origine de ce roman, il y a un tableau, et j'aimerais que vous nous racontiez justement cette rencontre de ce tableau.
Oui, c'est vrai que tout le... Bonsoir d'abord à toutes et à tous, quand même mieux avant de commencer à prendre la parole. Oui, c'est vrai que ce livre est avant tout l'histoire d'une rencontre. Une rencontre comme on en a avec les gens, avec les lieux. Là, ça a été avec un tableau dont j'ai découvert la reproduction un petit peu fortuitement sur Internet. Et quand je l'ai découvert, il m'a immédiatement intriguée. J'ai eu l'impression de me trouver en face d'une énigme, d'un mystère, d'un décor à secret. Et il m'a tellement intriguée que je suis allée le voir pour de vrai. Donc c'était une vraie rencontre au musée de Rotterdam où il se trouve, pour voir s'il gardait toujours ce magnétisme. Il s'est trouvé que oui, finalement. Et à partir de cette rencontre, une histoire s'est imposée à moi, s'est construite. J'avoue que je n'ai pas de goût particulier pour les romans historiques, les histoires en costume, en chapeau. J'ai des interrogations un peu plus contemporaines. Mais là, c'est vraiment le personnage qui est de dos sur le tableau, je crois, qui a pris la parole, qui m'a fait entrer dans le cadre et qui m'a confié son histoire. Et puis en échange, je crois que je lui ai aussi confié certaines choses un petit peu plus personnelles de mon côté. Donc je crois qu'il y a une sorte de tissage d'histoire. Et donc c'est ainsi que sont nées les heures silencieuses.
Je voudrais juste préciser que la démarche est quand même assez forte, étant donné que construire un roman en partant d'un tableau, c'est quelque chose qui s'est déjà vu. Hein. Il suffit de voir Dan Brown avec son... qui part de la Joconde, Besson avec un tableau de Hooper, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tracy Chevalier, évidemment, avec La jeune fille à la perle.
Pierre Assouline, avec le portrait de la baronne de Rothschild.
Voilà. Et là, vous faites très fort, c'est que, en fait, déjà, vous partez d'un peintre qui n'est pas vraiment connu, en tout cas, pas le plus connu par les Français, en tout cas. Mais c'est qu'en plus, vous prenez un tableau qui n'est pas vraiment représentatif de son œuvre. C'est-à-dire que généralement, il est plutôt habitué à faire des intérieurs de cathédrales.
Oui, j'avoue que c'est un peintre que je ne connaissais pas, j'avoue, avant de découvrir ce tableau, dont on sait peu de choses. On sait peu de choses sur lui, sur sa vie. Il a une œuvre qui est assez limitée. Et c'est vrai qu'il est essentiellement connu pour avoir peint des intérieurs d'églises, de cathédrales, des sortes de grandes nefs gothiques avec des minuscules personnages et puis des grands sols à damier, des perspectives et quelques tableaux d'inspiration, je dirais, plus profane, entre guillemets, dont ce tableau. Et le fait, finalement, de ne rien connaître ni sur le peintre ni sur le tableau, ça a laissé la place à la liberté la plus totale, et je l'ai prise, voilà.
Et en plus, bon, non seulement dans ce roman, il est question de ce tableau, mais pas que de celui-ci, finalement. Enfin, vous êtes vraiment plongé dans l'univers artistique du XVIIe siècle hollandais.
Oui, il y a quelques petits clins d'œil, à quelques tableaux de Vermeer, voilà, qu'on peut retrouver, mais c'est pas l'essentiel du propos, puisque l'essentiel c'est cette vie, cette histoire de vie, hein, de vie, je crois, comme j'ai eu l'occasion de le dire un petit peu dans son clair-obscur, avec des désirs entravés, avec des secrets, avec des remords, avec des désirs dérangeants, des désirs interdits, avec des souvenirs, et dont elle éprouve à un moment le besoin de se libérer, de regarder un peu par-dessus son épaule à, je dirais, à un moment de la maturité et au moment où elle traverse un drame intime qui la bouleverse.
Dernière petite chose par rapport à l'aspect artistique. Est-ce que cette période-là, enfin, vous l'aimez particulièrement, ou c'est ou même quels sont vos goûts en matière de peinture?
En matière de peinture, ça serait long de dire tout ce que j'aime, mais des choses jusqu'à les plus contemporaines, jusqu'à l'abstraction lyrique aujourd'hui, que les gestes de Zavouki, d'Olivier Debré, voilà, jusqu'à la peinture très classique de Caravage à Rembrandt. À Vermeer, en passant par Turner, je ne sais pas qui encore. Mais c'est vrai que dans ces tableaux, on a l'impression que ce sont des scènes arrêtées, des scènes surprises, et où le spectateur a toujours l'air d'entrer un petit peu par effraction, toujours un petit peu sur la pointe des pieds, en surprenant une scène dont on ne sait pas si elle lui est destinée, et que le peintre a arrêté à un moment. Et finalement, je trouve que toute cette peinture hollandaise, flamande, se prête en fait à s'ouvre à l'imaginaire.
Oui, c'est vrai qu'il y a un jeu souvent de mise en abîme, qu'on peut même voir dans le tableau qui est représenté sur la couverture. C'est-à-dire que Vermeer va souvent s'amuser à représenter une scène, et puis derrière un tableau qui va donner une petite interprétation. Justement, à un moment dans votre roman, il est question de la peseuse de perles, où derrière on peut voir le tableau de l'Apocalypse.
Des petits clins d'œil, des petits jeux de pistes, avec toute une symbolique, parce qu'en fait, chaque chose est quand même pesée, n'est jamais là par hasard. Et puis ces effets de mise en abîme, là, un peu l'effet Vachkiri du tableau dans le tableau. Et pour moi, je trouve que ce sont des portes ouvertes sur des scènes qui s'offrent, et dans lesquelles, en fait, on peut lire ce qu'on souhaite. Hein. Et on peut aussi y injecter, comme ce que j'ai fait, des parts de ses propres préoccupations ou de sa propre histoire.
Et c'est là donc que vous avez créé l'histoire de Magdalena et son journal intime.
Elle s'est créée toute
seule.
Elle
s'est créée, oui.
Voilà, elle s'est imposée, parce que je crois qu'on ne fabrique pas une histoire. Au départ, tout du moins, je crois qu'on l'accueille. Voilà, il y a des choses qui se dessine, voilà, on l'accueille, ensuite on essaie de la porter du mieux qu'on peut jusqu'au bout avec le travail d'écriture.
Alors, Magdalena, c'est un personnage très fort, qui est assez représentatif de la condition féminine de l'époque. Comment vous la décririez-vous?
Comment je la décrirais? C'est une femme, je dirais, un petit peu une femme empêchée. Hein, puisqu'à l'époque, la condition féminine laissait quand même assez peu de place à l'expression et à l'expansion des sentiments et des qualités et des compétences et des capacités intellectuelles. Donc c'est une femme qui a été élevée un petit peu comme un garçon manqué, qui a été le fils manquant de son père, et son père était un armateur de la compagnie hollandaise des Indes orientales, cette grande épopée maritime où on partait pour 18 mois de mer pour aller chercher jusqu'au Suriname, jusqu'en Chine, les épices, la porcelaine, la soierie, les lacs, la cannelle. Donc elle a été élevée un petit peu comme un garçon, jusqu'au moment où c'est une femme et il lui faut céder le pas. Et elle cède le pas à son mari qui, lui, va prendre la suite de son père. Et je crois que devant son clavecin et devant son destin familial qui est quelquefois douloureux, elle continue à rêver d'océan. Voilà. Alors, je ne crois pas qu'on m'a dit quelquefois, c'est peut-être un roman un peu féministe, un peu une remise en cause de la condition féminine à cette époque. Remise en cause, peut-être pas. Je crois que c'est plus un état des lieux. Hein. Les choses étaient ainsi. Mais quand on y pense, oui, je crois qu'il y a eu évidemment un gâchis énorme, en contraignant les femmes à des fonctions uniquement, je dirais, maternelles, domestiques, subalternes, mais c'était ainsi. Donc le propos est plutôt de voir cette femme, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, quel regard elle jette sur sa vie et comment elle se libère des choses qui finalement la troublent, la dérangent et la mettent en souffrance.
Justement, vous parliez de la fonction maternelle qui ne peut pas... Enfin, on pense par exemple à sa sœur qui n'arrive pas à avoir d'enfants, oui, et même elle qui perd pas mal de ses enfants en voulant enfanter. Et justement, c'est ce qui va déboucher sur une espèce de... pas de compromis, mais en tout cas de difficultés avec son mari.
Oui, c'est vrai que la maternité qui aujourd'hui, dans une majorité de cas, est une chose heureuse, à cette époque ne l'était pas toujours. Dans de nombreux continents encore aujourd'hui, c'est quelque chose de complexe. Et c'est vrai que ça m'interrogeait cette relation entre donner la vie et en même temps s'exposer à sa propre finitude. Alors peut-être est-ce que là, j'ai aussi mis des choses assez personnelles de mes propres expériences de maternité qui ont été, je dirais, heureuses mais complexes et où je me suis trouvée aussi en face de ces questions de vie et de mort, et cette époque où les femmes qui enfantaient perdaient, je dirais, pratiquement les deux tiers des enfants qu'elles mettaient au monde. Donc je me dis aussi, voilà, quelle souffrance, comment est-ce qu'on accepte ça, comment est-ce qu'on vit ça. Voilà, c'est des choses que j'ai pensé explorer.
D'accord. Et votre projet, en écrivant les Heures silencieuses, est-ce que c'était plutôt... de raconter l'histoire donc d'une femme avec ses déboires, ses aventures, donc l'histoire avec un petit H, ou plutôt l'histoire avec un grand H, et donner lieu à quelque chose de beaucoup plus représentatif de l'époque, en tout cas.
Je crois qu'il y a finalement peut-être les deux dimensions, avec ces deux univers qui se croisent, qui se confrontent sur le tableau, avec une partie, je dirais, intimiste, avec la confession, le journal intime de cette femme qui avoue des traumatismes, des secrets d'enfance, qui parle de ses relations, de l'ambiguïté de ses relations avec son mari, avec ses enfants, de sa relation à la musique. Donc un côté, je dirais, très, très vertical, d'une descente vraiment au fond de soi. Et puis à côté de ça, l'histoire, les bruits du monde qu'apporte son mari, donc avec cet uniforme, cette épée là au milieu du tableau, qui apporte un univers extérieur, avec cette fresque finalement de cette grande épopée marine, maritime, économique, commerciale, cette grande aventure de la Compagnie des Indes, qui finalement s'est fracassée sur l'esclavage aussi, sur la traite des Noirs.
Voilà. Vous êtes beaucoup documenté pour écrire ce roman ?
J'ai lu, alors je ne connaissais pas bien l'époque, même pas du tout, du siècle d'or en Hollande, donc j'ai lu un ou deux livres, oui, sur la question, mais en même temps, je ne suis pas historienne, et je ne voulais pas écrire un roman historique pur et dur, si je puis dire, mais plutôt un portrait psychologique. Bon, cela dit, il fallait le situer dans un contexte, ne pas commettre d'anachronisme, éviter les bracelets-montres, voilà, le temps des Gaulois, c'est toujours un petit peu désordre. Donc c'est vrai que je me suis documentée pour savoir comment on vivait, comment se passait la vie de famille, la vie sociale, la vie domestique, les relations entre les gens, entre les enfants, l'éducation, l'aventure maritime, comment ça se passait. Et puis ensuite, je crois que j'en ai beaucoup oublié, de manière à ne laisser affleurer que ce qui était vraiment nécessaire, je dirais, pour nourrir l'histoire.
D'accord. Je voudrais juste revenir également sur la forme. Vous avez choisi celle du journal intime. Est-ce qu'il y a une raison particulière ?
C'est pareil, c'est pas un choix délibéré, c'est cette confidence qui s'est un petit peu imposée de cette manière-là. Mais j'avoue, en y pensant, que c'est une forme qui m'intéresse beaucoup. En tant que lectrice, voilà, le monologue intérieur, le journal, c'est-à-dire la prise le point de vue d'un sujet sur sa propre histoire. Parce que je trouve que c'est un petit peu comme dans la cure psychanalytique, où la parole poursuit la quête de sa vérité, jusqu'à l'aveu qui finalement va le libérer, et que ça permet vraiment une descente au fond de soi, une sorte de descente en spirale, voilà, jusqu'au moment où il se passe quelque chose. Ça permet le moment de vérité avec soi-même. Et là, le fait que le journal soit concentré sur une période très courte, ce qui doit durer à peu près un mois, c'est parce qu'il a été entrepris et écrit dans l'urgence justement de se libérer de différents secrets à la suite du drame qui la touche. C'est pas je tiens mon journal un petit peu de temps en temps pendant des années, mais ça correspond vraiment à un besoin de délivrance.
D'accord. Mais justement, vous-même, vous tenez un journal intime ou ça vous donne envie d'aller vers ça?
Pas du tout. non, pas du tout. Je crois que j'en ai ni le temps, ni l'envie, que ce n'est pas une démarche qui m'est familière. Non, c'est pas du tout. En revanche, accueillir des histoires, voilà, qui se présentent, essayer de les conduire, de les accompagner, de les écrire, et pourquoi pas par le biais du journal, oui, ça m'est plus familier.
D'accord. Alors, donc la peinture est un des thèmes dominants de ce livre. Vous avez également, enfin, l'autre grand thème dominant, c'est aussi la musique, et qui est très importante pour le personnage principal, puisque donc sur ce tableau, elle est représentée de dos, c'est très important, en train de jouer sur son épinette. Et d'ailleurs, il est question à un moment, enfin, elle regrette que sur cette reproduction, il n'y ait pas... Enfin, là, il y a un petit clin d'œil à Vermeer, oui, encore une fois, ouais. Oui. Qu'il n'y ait pas des hippocampes qui soient représentés, oui, avec une inscription en latin. Alors, je me suis permis de la relever. C'est... excusez-moi de l'accent. Alors, c'est Musica Laetitiae Comes Medicina Dolorum. En gros...
C'est-à-dire que la... C'est une phrase qui dit que la musique nous accompagne partout, dans nos joies comme dans nos peines. Voilà. Ouais. Et c'est quelque chose qui est un petit peu fondateur dans sa relation à la musique, qui est à la fois une joie, une consolation, une confidence aussi. La musique que pratiquent aussi ses enfants, notamment ses filles, et l'une de ses filles qui a une voix merveilleuse. Voilà, un cadeau des dieux, et c'est vrai que ça correspond à mon propre intérêt, à mon propre compagnonnage avec la musique, et à ma propre fascination pour la voix humaine, ça c'est sûr.
Oui. Donc, d'ailleurs, il y a une très belle page, quand il y a vers la fin, où une délégation française vient pour écouter, et là, la famille donc donne une espèce de récital,
concert, familial,
un petit concert, oui. Et un de ses membres tombe éperdument amoureux d'une, de la plus jeune, je crois.
Oui, oui. Et amoureux de
celle qui a la très belle voix.
Voilà.
Et qui décide de lui offrir un bijou extrêmement précieux.
Voilà. Oui, c'est vrai que la voix, pour moi, est un objet de fascination absolue. La voix chantée, la voix parlée aussi. Parce que je crois qu'on est très présent et très vrai dans sa voix. On peut difficilement tricher. On peut tricher avec ses mots, on peut tricher un peu avec ses gestes, avec son regard. Mais je crois qu'on ne triche pas avec sa voix, et que c'est très difficile de la contrefaire, tout du moins sur pendant longtemps, et qu'on y est réellement très, très présent. Et puis la voix chantée, c'est voilà, d'où vient ce talent, d'où vient cette grâce, comment le corps humain peut produire... Voilà, des merveilles comme ça. Je crois que c'est quand même l'instrument absolu. Donc voilà, j'en ai profité pour en parler un petit peu.
D'accord. Et d'ailleurs, quelle importance a eu pour vous la musique dans l'écriture de ce roman? Est-ce que vous avez écouté, avant d'écrire Les Heures silencieuses, quelques morceaux sur le virginal ou...
Oui, la musique de cette époque, oui, j'en ai écouté un petit peu, mais c'est plutôt, je dirais, l'écho d'un compagnonnage, une fréquentation personnelle de la musique depuis l'enfance, et puis de la pratiquer aussi de manière en modeste amateur, mais de la pratiquer aussi à titre personnel. Donc je crois que j'ai été heureuse de pouvoir parler de musique, tout simplement.
D'accord. Et vous-même, vous jouez un petit peu d'un instrument, vous chantez un petit peu?
Oui, très modestement, oui, un peu de... piano amateur, mais avec plus de conviction et de persévérance que de talent.
Bon, en tout cas, la musique, on le retrouve dans votre style. C'est quelque chose de très poétique. D'ailleurs, la poésie est très, très importante pour vous. C'est d'ailleurs comme, enfin, ce sont les premiers textes que vous avez écrits.
C'est vrai que la sonorité des phrases est quelque chose d'important, parce que je crois qu'on écrit, enfin que j'écris, vraiment à l'oreille. C'est-à-dire qu'il faut que la phrase sonne juste comme une mélodie, comme un accord. Et il suffit quelquefois de changer un mot, de rajouter ou d'enlever une syllabe, de déplacer un point, une virgule, un point-virgule, pour que la phrase se casse la figure, ou qu'au contraire, elle se pose et qu'elle sonne juste. Et que tout le travail d'écriture, c'est, je dirais qu'il y a une phase qui est une phase heureuse, c'est, voilà, on écrit, on raconte une histoire. C'est-à-dire que là, on devient Scheherazade, voilà, c'est les mille et une nuits, on invente cette histoire, les personnages prennent vie, s'échappent, on ne sait pas trop où ça mène. Et ça, c'est très excitant, en fait. Et c'est la phase que je crois la plus facile. Ensuite, on est vraiment confronté à comment on va le dire. C'est-à-dire qu'entre le premier G et le bon à tirer, ce qui va figurer dans le livre, là, il y a tout un travail à l'oreille, sur les phrases, de manière à trouver le mot juste, le son juste, l'expression juste. Et ça, c'est... Il y a quelques moments, je dirais, un peu de grâce. Et puis, il y a aussi pas mal de travail.
Il vous a fallu longtemps pour écrire ce roman ?
Longtemps, à vrai dire, je ne sais pas trop, parce que je l'ai écrit, je ne sais pas, je dirais peut-être en un petit peu moins d'un an, mais je l'ai gardé très longtemps dans mon ordinateur, parce que je ne savais pas trop à qui l'envoyer, tout simplement, et puis je ne savais pas si c'était trop court, si c'était intéressant, donc voilà, je l'avais un petit peu gardé au chaud. Donc ça m'est un peu difficile aujourd'hui d'avoir le recul complet pour savoir combien de temps ça a pris.
En revanche, votre éditeur nous a confié que, dès qu'il a reçu votre texte, il était enthousiaste et lui, en revanche, il n'a pas attendu pour se l'approprier, en tout cas, pour l'éditer.
C'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance qu'un manuscrit envoyé par la poste, qu'Henri Dougier, donc le directeur des éditions Autrement, quelques jours après, m'appelle. Ça s'appelle un petit peu un conte de fées. Voilà, parfois ça arrive, il faut y croire, la preuve.
Je voudrais seulement rajouter que par rapport à cette écriture poétique, j'invite les lecteurs de la salle ou même ceux qui vont nous écouter par podcast d'être sensibles à tout au jeu de symboles. Même si à première vue ça paraît très simple, il y a plein de petites... des petites alternances, par exemple, entre le blanc et le noir, par rapport aux oiseaux, il y a plein de petites choses comme ça. Et ça ajoute vraiment une espèce de poésie au texte qui est très forte. Ouais.
Oui, dont vous me parliez, mais ça, c'est... J'en étais absolument pas consciente. Voilà. C'est des choses que le lecteur s'approprie le livre et puis découvre des choses qui sont là un peu involontairement et qui donnent des lectures possibles.
Et alors, d'un point de vue plus personnel, quelles sont vos autres activités quand vous n'écrivez pas de romans
Quand je n'écris pas de romans, je travaille dans la vraie vie. Voilà, je suis rédactrice pour un magazine et un site internet. Donc une écriture, je dirais, professionnelle, une écriture très, très cadrée qui n'a pas grand-chose à voir avec l'écriture poétique ou romanesque.
D'accord. Parce que bon, il s'agit d'un premier roman, mais qui nous a particulièrement séduit parce que vous ne faites pas l'erreur que font souvent les auteurs de premiers romans. C'est-à-dire que, bon, là, modestement, vous n'avez pas tout dit. Enfin, je sais que vous avez fait pas mal d'études de journalisme, de psychologie. Et généralement, les jeunes écrivains ont tendance à tout mettre. On a l'impression que c'est leur CV, à la limite, qu'ils nous donnent à travers leur roman. Et vous avez réussi à aller au-dessus de ça, finalement.
Ouais. C'est pas moi de répondre.
C'est juste une remarque.
Voilà,
là, je suis désolée.
J'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Voilà. Peut-être, je sais pas.
Et sinon, oui, vous animez aussi des ateliers d'écriture, je crois.
Ponctuellement, oui, à l'occasion. Voilà, quand ça m'est demandé, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir. parce que je trouve que ça permet de dédramatiser un petit peu le rapport des participants avec les mots, avec l'écriture, avec leur imaginaire. Ça leur permet aussi d'aller chercher en eux des choses auxquelles ils n'ont pas forcément pensé, qui sont présentes et qui suffit, voilà, un petit peu d'aider à accoucher. C'est plein d'émotions. Parce que bon, l'écriture, c'est quelque chose de très, très sensible, très palpable, très émotionnel. C'est-à-dire un registre où on s'engage beaucoup. Donc, je trouve ça vraiment passionnant d'essayer d'être un petit peu l'intercesseur, l'intermédiaire, pour permettre de faire émerger ces choses et puis de dédramatiser aussi le rapport aux mots, les personnes qui viennent en disant je ne sais pas écrire, ou etc. Bon, ce n'est pas vrai.
Et alors votre livre, sans dévoiler quoi que ce soit, se finit un petit peu, enfin c'est un petit peu une fin ouverte. Et je veux savoir si vous comptiez écrire une suite.
Alors la fin est un petit peu ouverte, un petit peu en point de suspension, parce que un peu comme dans la vie, on ne sait pas ce qui va se passer demain quand on va tous sortir de cette salle. Donc et puis je n'aime pas, moi, en tant que lectrice, qu'on me ferme l'horizon d'abord. Et j'aime pas trop qu'on mette des sous-titres, un petit peu téléguidés, un petit peu téléphonés. Donc j'aime bien que le lecteur puisse s'approprier l'histoire, le personnage, et puis continuer à le faire vivre comme il le veut, s'il en a envie.
D'accord. Et là, est-ce que vous êtes sur un projet d'un autre roman
Alors, oui, comme je vous le disais, donc ce roman était resté assez longtemps dans mon ordinateur, donc d'autres histoires sont venues, ont eu le temps d'arriver, que j'ai pu écrire. Et il se trouve que l'éditeur a re-signé un contrat pour donc une histoire qui était prête et que j'ai finalisée et normalement qui devrait paraître début 2012.
D'accord.
Ce qui va bien,
Donc on attend avec grande impatience.
Merci. J'espère que ce sera à la hauteur et que les lecteurs retrouveront des choses qui les ont touchés.
Voilà. C'est toujours dans le milieu de la peinture.
Pas du tout. C'est une histoire très contemporaine. Voilà.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est une rencontre. C'est un tenté, un moment M avec un tableau. Voilà. La rencontre maintenant est terminée. Elle est close. Le livre vit sa vie de livre. Et moi, je suis passée à autre chose.
D'accord. Et je voudrais également vous demander quelles sont vos influences par rapport au roman, à la poésie. Est-ce que vous avez des auteurs phares, en tout cas des auteurs sur lesquels vous êtes appuyé pour écrire ce roman, ou est-ce que vous avez essayé justement de vous affranchir de tout ça et être libre finalement?
De toute façon, quand on écrit, c'est difficile d'écrire à la manière d'eux, puis je crois surtout que c'est absolument pas souhaitable. Donc je crois que l'écriture d'un auteur, c'est fait de sources multiples et inconscientes. Et il faut qu'elle reste inconsciente, parce que si on a l'impression qu'il a fait à la manière de Tolstoï ou de Stefan Zweig, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi, de faire du mauvais pastiche. Je crois que l'important, c'est justement d'arriver à trouver, à poser sa propre voix. Hein, que l'écriture, c'est aussi un travail de recherche de sa propre identité, de sa voix personnelle. Alors derrière, c'est sûr qu'il y a forcément beaucoup de monde quand on lit beaucoup, mais ce que j'espère, c'est que ça ne transparaît pas et que l'écriture gagne une maturité, une identité très personnelle.
D'accord.
Voilà.
Mais sinon, enfin, en dehors de ce roman, quels sont vos auteurs, vers lesquels vous allez plus spontanément?
Mais moi, je suis très fascinée par tous ce que j'appelle les grands explorateurs austro-hongrois, les Stefan Zweig, les Arthur Schnitzler, Sandor Marai, ou même sur des formes qui sont quelquefois longues, qui sont quelquefois très très brèves. Je dirais c'est une exploration vraiment des secrets du cœur, des replis de l'âme. C'est au scalpel, avec un décor posé de manière très, très juste, avec une fresque toujours sociale en toile de fond. Et puis, on plonge dans un personnage et on va vraiment jusqu'au bout. Quoi. C'est les différentes peaux de l'oignon, là, s'écartent et on touche vraiment au cœur du personnage. Et ça, je trouve ça fascinant. Voilà. Puis j'aime bien aussi les écrivains un peu fleuves, j'aime bien les romans russes du 19e. Voilà. les Anna Karénine, les âmes mortes, tout ça. Moi, je trouve que c'est le souffle à l'état pur. Voilà, c'est la fresque, c'est le souffle. En même temps, c'est le personnage. Je trouve ça passionnant, j'adore.
Ça se voit, oui. Et alors, j'ai cru comprendre que entre votre poésie et votre roman, enfin, au niveau des thématiques, c'est pas du tout le même univers, en tout cas. Enfin, vous êtes quand même renouvelé.
J'espère.
C'est autre chose, oui. Quelles sont vos thématiques, d'ailleurs, en matière de poésie?
Alors, thématiques, c'est difficile à dire ce qu'on explore. C'est toujours les choses de la vie, hein. Les moments, les fragments arrêtés, les ressentis, les rencontres. Hein. Bon, il n'y a pas vraiment de thème particulier. Présence de la musique, bien sûr. Puis toutes les interrogations existentielles. Hein. La vie, l'amour, la mort, Dieu là-dedans. c'est un peu une caricature, mais c'est vrai aussi. Et donc, la poésie, voilà, on attrape des moments et on les pose en quelques mots. Et voilà. Puis je crois surtout que c'est la forme qui dicte un petit peu... c'est le sujet qui dicte un petit peu la forme. Voilà. Il y a des choses, je crois, qui se prêtent à la poésie. Il y a des choses qui se prêtent à la narration, au roman, au récit, au journal, à la nouvelle, à la pièce de théâtre. Et que finalement, chaque sujet trouve la forme qui lui va.
Bon, eh bien, déjà, on va vous remercier d'être venu. Et puis, on va surtout remercier Gaëlle Josse pour son très beau roman.
Merci à vous tous.
On attend le second, avec très grande impatience. Et on espère vous recevoir dans ces salons.
Merci à vous.
À cette occasion.
Pourquoi pas.